Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 276e épisode de notre podcast de novembre, durant laquelle nous allons revenir sur le Comic Con Paris. Nous allons vous proposer également quelques chroniques de comics sorties récemment en VF, de comics VO, et puis on parlera de séries télé, ça faisait un petit moment. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 276e numéro de Comic Stories.
Bonsoir.
Et notre petite routine de binôme est interrompue, puisque nous accueillons celui que vous avez dû croiser en collant sur le Comic Con Paris, Erwan.
Salut, salut.
Erwan, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne font pas partie de ce qu'on appelle l'Instagame, est-ce que tu peux brièvement te présenter?
Ouais, donc sur Instagram, moi c'est Erwan Comics. Qu'est-ce que je fais dessus? Bah, je dis ce que je lis, je mets pas mal de stories un peu débiles, et puis je me mets des photos de moi en collant, comme tu l'as dit.
Et tu reproduis des covers de comics.
Et ouais, il faut que je reprenne ça.
Il faut que le monde le sache. Ouais, ouais. voilà, donc, tu étais sur Comic-Con Paris, petit chanceux.
Ouais.
Ni Anthony, ni moi, n'y étions, donc c'est surtout toi qui vas pouvoir nous dire un petit peu ton ressenti. Est-ce que c'est la première que tu faisais ou est-ce que tu avais déjà fait les précédentes déjà?
J'avais déjà fait la Comic-Con l'année dernière, ouais. Et j'avais fait la Paris Comics Expo il y a 2 ans. Donc en comparaison, bon, on ne peut pas comparer, ce n'est pas les mêmes choses. Par rapport à l'année dernière, il n'y a pas eu trop de... Comment dire? Il n'y a pas eu trop d'évolution. J'ai l'impression que c'est toujours autant le bazar, au niveau des files d'attente surtout.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a un monde fou le samedi, donc je conseille pas aux gens d'aller le samedi si vous avez des signatures à faire, allez-y plutôt un autre jour, parce que bon, 2 heures de queue, c'est un peu le bazar.
Ouais, et sur
après,
la... Vas-y.
Vas-y, vas-y.
Je dis sur la gestion un peu, je sais qu'on a eu écho de quelques soucis sur les premières éditions par rapport à certains auteurs inaccessibles, etc. Un salon trop supermarché et pas forcément beaucoup de rapport avec le comics, est-ce que ça a évolué?
Alors c'est une bonne question. Je sais qu'il y avait Frank Miller qui était très demandé le vendredi, mais j'étais pas le vendredi, donc je sais pas trop comment c'était géré. Pour le samedi, ce qui a été un peu gênant, c'était plutôt le stand MCM avec Olivier Coipel et Terry Dodson, puisqu'ils ont fait une animation sketchbook. En fait, les gens venaient montrer leur sketchbook aux auteurs, sauf que du coup, ça a débordé. Et donc, moi qui faisais la queue, par exemple, on est passé de 3 signatures, mais il y a eu du retard, donc on est passé à 2 signatures. Pour terminer à 1 signature au bout de 3 heures de queue.
Ouais.
Donc ça c'était un peu gênant. Mais sinon non, au niveau de l'artiste allait, ça va tout seul quoi, il y a personne et c'est très accessible quoi, ça roule bien.
Alors fais-nous rêver, qu'est-ce que tu as pu choper là-bas ou qui est-ce que tu as pu rencontrer?
Qui est-ce que j'ai pu rencontrer alors? Au niveau artiste pas grand parce que j'avais pas grand-chose à faire signer et les noms cette année c'était pas trop des auteurs. De ce que je lis, c'était plutôt du Marvel, et moi, comme je suis plutôt de DC Comics, c'était pas trop ce que j'avais. Qui j'ai pu voir? J'ai pu voir Lee Garbett, pour faire signer un des Bad Girls. La géniale Gail Simone, qui est très drôle. Et comment il s'appelle? Neil Adams,
ah oui,
qui a un très bon sens de l'humour, mais qui a des tarifs un peu abusés. Enfin bon.
Ouais. T'as quand même pu avoir ta signature, ou c'était même ça, c'était pas possible?
Pour Neil Adams?
Ouais.
Alors pour Nidam, si j'ai pu, en fait, la première est gratuite,
ouais.
La deuxième c'est 40 euros,
ah oui.
40 dollars.
Okay.
Alors c'est 40 dollars les supplémentaires en fait, donc oui.
Oui, il fait plaisir le monsieur, voilà.
Exactement.
Et particularité de ton Comic-Con à toi, tu étais en cosplay, donc j'imagine que ça change pas mal de choses.
Ouais, ça change beaucoup de choses au niveau du... Bah déjà de ce qu'on fait, parce que quand t'es déguisé, bah t'as pas ton sac, t'as pas tes affaires, donc t'achètes pas. Donc ça m'a déjà pris une bonne partie de la journée, ça, une demi-journée. Donc moins d'achats cette année à cause de ça. Après c'est sympa parce que du coup, comme c'était la première fois que je le fais, de voir les yeux des enfants, parce qu'il y avait plein d'enfants qui étaient là aujourd'hui, bah, le samedi justement, et de voir leurs yeux quand ils voient ton costume, bah, c'est magique quoi. Donc j'ai trouvé ça super cool et puis je pense que l'année prochaine, bah, je continuerai à me redéguiser. Alors ce sera pas en Robin classique, ce sera normalement en Beast Boy.
C'est ce que
j'ai. Non, c'est super cool. Ouais.
Bon, plutôt une bonne expérience du coup.
Ah bah moi j'adore, hein, des gens tous les ans, et ce qui est vraiment cool, c'est de croiser en plus les autres Instagrammeurs et les autres YouTubeurs, et ça c'est toujours un plaisir de les revoir sur les salons. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir en fait en dehors de ces salons.
Et puis maintenant, le nombre de salons, maintenant que PCE a plutôt tendance à ne plus exister, c'est un peu compliqué.
Ouais, ah ouais, on croise les doigts, on sait jamais.
Ouais, en tout cas, ça avait l'air d'être plutôt une bonne ambiance. Moi, je suivais ça un peu de loin sur Instagram, du coup, avec les stories de chacun. Et je me suis un petit peu mordu les doigts de pas m'y être pris plus tôt, on va dire.
Je peux te comprendre.
Mais l'année prochaine, voilà, et plutôt le vendredi, a priori, parce que tout le monde avait l'air unanime que le samedi, c'est pas gérable.
Ouais.
Et par rapport à PCE, parce que quand même, moi, ça m'intéresse. Moi, je suis team PCE, donc.
Par rapport à la PCE, alors ça date un peu la PCE, donc les souvenirs sont plus trop là.
Est-ce que tu avais fait la dernière
Par rapport à
déjà?
la... Ouais, j'ai fait la toute dernière, moi. Bah, c'est la seule que j'avais faite, en fait. J'en ai fait qu'une, c'était la dernière.
Ok.
Par rapport à la PCE... Bah, il y a toujours côté marketing, quoi. Y a toujours les gros stands qui sont là à la Comic-Con, et ça, c'est un peu gênant. Du style Canal+, MCM, toi, on se demande un peu ce qu'ils font là, alors qu'à la PCE, il me semble pas qu'ils étaient présents. C'était plutôt du comics, des occasions, il y a plein de choses, quoi.
Il y avait beaucoup de stands de vente de singles, de back issues et compagnie. C'était aussi moi ce que j'aimais. Et puis beaucoup d'éditeurs présents.
Ouais. Mais à la Comic-Con, tu vois, il n'y avait pas ces vendeurs-là. Il y avait vraiment les gros trucs, genre Central Comics, qui était présent, ça, de Paris. Il y avait un revendeur canadien qui était là. Mais sinon, il n'y avait pas d'occasion comme il y avait à la PCE, quoi. Et c'est vrai que ça manque. Parce que les Canadiens, c'est sur des prix qui étaient très hauts, vu que c'est de l'import. Et ouais, ça manquait.
Et maintenant qu'Urban a rejoint le game, est-ce que tous étaient là du coup?
Tous étaient là, c'est-à-dire.
Bah, au niveau des éditeurs français.
Ouais, ils étaient tous là. Il y avait iComics, il y avait. Bah, les petits nouveaux étaient là, donc oui, ils étaient vraiment tous là.
Ouais, parce que ça manquait sur les précédentes éditions, bah, notamment Urban quoi, qui a participé pour la première fois. Et ouais, ça apporte quand même quelque chose quand on est lecteur de comics et qu'on vient pour un Comic-Con. Ne pas avoir un des deux principaux éditeurs, c'était quand même assez emmerdant jusque-là.
Ouais, mais après, tu vois, ce qui est toujours embêtant à la Comic-Con, c'est que les stands sont tout petits. Pour Urban, on se marque clairement dessus. C'est vraiment des tout petits. Les allées font même pas 1 mètre, j'ai l'impression. Panini, c'est pareil, c'est tout petit. Alors que tu vois que Bliss Comics, bon, ok, ils ont pas un catalogue aussi large que ces deux-là, mais on peut respirer, on peut se balader, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage que les éditeurs aient vraiment des tout petits trucs comme ça, alors que Canal+, MCM, ils ont des gros stands, alors qu'au final, ils font que de l'animation, quoi. Donc, c'est un peu dommage.
CF, le stand Melty d'il y a quelques années, si je me rappelle bien de ce que j'avais entendu.
C'est possible.
Après, MCM a quand même ramené deux artistes, donc bon.
Ouais. Ouais, mais la gestion était pas top et l'emplacement était pas top non plus parce qu'ils étaient près de la file pour entrer dans les grandes salles. Donc personne savait trop dans quelle file fallait se mettre et c'était très mal géré, quoi. Les files d'attente, c'est vraiment, faut vraiment qu'ils bossent là-dessus les années prochaines parce qu'il y a vraiment un gros problème là-dessus, quoi.
Ok, eh ben, rendez-vous l'année prochaine alors pour voir ça.
Ouais.
Allez, on va passer à des chroniques VF. Anthony, toi, Comic-Con Paris, ça t'en touche une sans bouger l'autre ou...
Pas du tout, parce que, enfin, avec un nom comme Olivier Coipel, enfin, avec des noms comme Olivier Coipel ou Frank Miller, je pense que ça mérite d'y aller. Maintenant, enfin, moi, de chez moi, ça me fait assez loin, ça dure qu'un week-end, et si en plus il y a, bon, ça c'est une évidence, mais s'il y a beaucoup de monde, encore une fois, c'est assez compliqué à mettre en place. Mais non, non, ça reste, enfin, moi, ça m'intéressait.
Ouais, t'avais fait en plus la dernière PCE, toi, il me semble aussi.
J'avais fait la PCE, ouais. J'avais fait une PCE, c'était mon premier salon comics, donc je vais pas revenir dessus, mais ça m'avait bien plu. Donc j'aimerais bien réitérer les visites.
Ouais, moi ça me chauffe un petit peu aussi. Ça fait 2 ans que j'ai pas mis les. Bah, depuis la dernière PCE, que j'ai pas mis les pieds dans une convention. Donc l'année prochaine, je pense que Lyon et le Comic-Con, ça va devenir un peu obligatoire. Allez, Chronique VF, maintenant pour enchaîner, on va tourner la page des conventions et parler un petit peu de comics que nous avons lus récemment, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Anthony, tu vas commencer, tiens, avec une petite valse de titres Bliss Comics, ça faisait longtemps.
Attaqué par Bloodshot, donc je préviens d'avance, ça fait quelques temps que je les ai lus, donc là les commentaires risquent d'être un peu imprécis, on va dire, mais bon, j'espère quand même donner un avis. Donc Bloodshot Salvation, donc première remarque, faut avoir lu ceux d'avant déjà de base, parce que c'est très difficile, je pense, de rentrer dans ce premier tome de Salvation, mais qui est en fait le 5 ou 6e de toute la saga Bloodshot par Jeff Lemire. On nous avait laissé, enfin, l'auteur nous avait laissé sur cette sorte de twist familial, puisqu'on nous laissait comprendre que Bloodshot et Magic avaient mis un enfant au monde. toute une partie de ce premier tome, puisque Salvation va en fait se dérouler sur toute une succession de volumes qui vont être étalés au cours des mois à venir. Une partie de ce premier tome va être en fait sur la découverte de ce nouveau personnage, puis et une utilisation assez basique de flashback, on va découvrir comment on en est arrivé en fait à l'introduction du livre via que va opérer Ray Garrick, donc Bloodshot, auprès de la famille de Magic qui va vouloir la contrôler à nouveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça fait partie des surprises du numéro. Il y a une petite ambiance Preacher notamment qui se dégage de ces aléas familiaux qui n'est pas dégueulasse, qui est même plutôt très bien senti. On a toute une notion de voyage temporel qui peut dérouter, puisqu'en fait, moi, très honnêtement, je m'attendais après avoir eu Bloodshot version Predator, Bloodshot version Polar, Bloodshot version... en fait, Jeff Lemire calquait des modèles de cinéma ou d'autres médias à sa série Bloodshot. Et là, je m'attendais en fait à ce qu'il traite le récit post-apo, tel qu'on avait pu le voir par exemple dans des bouquins de La Route et son adaptation au ciné, ou en jeu vidéo, très dernièrement, Last of Us, pour ceux qui connaissent. Je m'attendais à lire ça, et en fait, ça, c'est pas encore le cas. Alors, on verra si Jeff Lemire va orienter dans ce sens de narration. Là, on a malheureusement le retour du... quel était le nom de cette organisation du...
Projet Rising Spirit.
Voilà. En fait... qui renaît des cendres du projet Rising Spirit, puisque ce projet, ce PRS avait été détruit, il me semble, au cours de Bloodshot USA, il me semble. Donc là, voilà, malheureusement, on retrouve, c'est toute une question de track par une organisation criminelle qui va réutiliser la technologie des nanobots pour poursuivre Bloodshot via un espèce de clone. Donc, tigé sur ce premier tome, ça reste pour moi une des meilleures séries Valiant et donc Bliss, mais c'est pas le meilleur tome de Bloodshot qu'on ait eu. Malgré tout, je pense que pour une introduction en vue d'un récit étalé sur plusieurs volumes, c'est très efficace, notamment via cette question de progéniture et en fait plus d'engeance que de progéniture pour l'instant, parce que c'est assez... on sait pas trop ce qu'il en est de cette petite fille. Graphiquement, c'est donc on retrouve... comment il s'appelle ? Je vais regarder... Miko Soyan, en fait, sur la partie introductive, je ne vais pas détailler ce qui s'y passe, et Lewis LaRosa sur le passé. Donc, c'est la crème de la crème de Valiant, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, Bloodshot Salvation, c'est toujours, et Bloodshot de manière générale, c'est toujours une super série à lire. Mais là, malheureusement, on commence à accuser le poids ce qu'on va appeler une petite continuité. Et malgré tout, il faut avoir lu ceux d'avant pour se plonger là-dedans. Mais si vous êtes lecteur régulier du Bloodshot, c'est super plaisant et c'est vraiment conseillé.
Ouais, moi Bloodshot, j'ai arrêté, faute de temps surtout après la série Reborn. Donc j'ai déjà pas mal de retard, donc il faudrait peut-être que je m'y remette.
Le truc, c'est que t'as pas mal de trucs qui découlent de Bloodshot de volume 3, puis de Bloodshot, ce que je vais appeler version Predator, puisque j'ai plus de tomes en tête. Pareil, Bloodshot USA pose beaucoup de bases pour notamment le projet Rising Spirit. Donc ouais, on commence à accumuler quand même les étapes qui font converger vers ce Salvation. Donc c'est totalement, pour moi, c'est inaccessible en bonne et due forme de commencer par ce tome 1.
Erwan, tu suis un peu les publications Bliss ou pas ?
Ouais, je les suis même toutes.
Ah ouais.
Et c'est vrai que Bloodshot, ouais, c'est une série qui est vraiment cool. Et ouais, comme tu dis, il faut vraiment avoir tout lu, quoi. Après, de là avoir lu l'intégrale, je suis pas sûr. La toute première qu'ils ont sortie il y a pas longtemps.
Je suis d'accord.
Je sais pas, mais ouais, le Reborn et USA, c'est vraiment super important de le lire. Là-dessus, je suis d'accord.
Et tu l'apprécies aussi, du coup, ce tome ?
Ah ouais, Bloodshot, c'est un des persos que je préfère avec X-O Manowar chez Bliss, en fait. C'est les deux persos que j'adhère vraiment.
Et bah ça tombe bien, puisque ah. X-O Manowar, c'est l'objet de la prochaine lecture d'Anthony, et le tome 2, alors tome 2 de X-O Manowar, deuxième série.
Oui, puisqu'il y avait toute une succession d'intégrales qui sont super, super plaisantes à lire, et c'est vraiment du Green Lantern version Valiant, avec cette dose de ce que c'est faire de mieux Valiant en termes de politique et de questions d'ordre mondial. Donc là, si vous avez suivi ce qu'on avait dit sur le tome 1, on n'a pas totalement quitté ça, puisqu'en fait, Matt Kint va copier globalement tous ces questionnements, mais va délaisser la Terre pour basculer sur Gorin avec ses peuplades, alors les Azuréens, les mecs du désert, enfin il y a un petit côté de Dune en fait dans ce X-Manoir, ça m'est apparu à la lecture de ce tome 2. Alors c'est dommage parce que la première partie du tome est super cool. On a un Harry qui décidément a pris les rênes de cette planète qui va devoir faire face à cette invasion de monolithes. En référence assez immédiate à Arthur C. Clarke, je pense. Donc là, ça déboîte pas mal. C'est vraiment de l'action, enfin du pur space opéra tel qu'on en fait plus tellement, je trouve. En plus, c'est dessiné par Clayton Crane, donc au niveau dessin, ça envoie vraiment pas mal. Quelque chose qui va faire chuter Arik pour mieux le faire remonter à la fin. Ça, malheureusement, on s'en doute. C'est le principe de construction des constructions. Classique mais globalement efficace. L'auteur mêle à ça toute une troupe de chasseurs de primes spatiaux, pareil tel qu'on peut en voir, que ce soit chez Star Wars ou d'autres licences de space opéra, Mass Effect dans le jeu vidéo pour ne citer que ou quelle de licence. Donc très honnêtement, pour les fans de SF space opéra à considération politique, avec un perso bien cerné en personnage principal, un mec qui a pas peur de faire des concessions, mais qui en même temps est très déterminé, c'est plaisant. Il y a aussi une distorsion graphique en milieu de tome qui est en lien justement avec ce parti pris narratif qui moi m'a un peu dérouté. Maintenant, de la même manière que Bloodshot, franchement, X-Manowar, là par contre, vous pouvez commencer avec le tome 1. Donc, qui était sorti en début d'année. Même si vous n'avez pas lu les intégrales, bon, évidemment, ça donne le pourquoi du comment Arik en est arrivé là, mais vous pouvez totalement démarrer par ça. Donc, démarrer par ce tome 2, je trouve ça un peu idiot, surtout qu'il n'y a qu'un tome à rattraper, donc ça se fait bien. Mais ouais, X-Manowar, c'est toujours du bon, hein. C'est vraiment toujours du bon.
Ah, j'avais adoré les intégrales, j'avais beaucoup aimé le premier tome de cette nouvelle mouture. J'ai pas encore lu le deuxième. Petite question, est-ce qu'on sait enfin ce que fait la compagne avec son tentacule, sa queue?
Du tout. Non, on a aucune idée de ce que font les Azuréens dans leurs pratiques sexuelles. Je pense qu'on ne le saura jamais. Mais je soupçonne une sorte de pratique à la Avatar avec leur connexion via des filaments roses. Mais
Ok, chacun se fera donc son idée.
Chacun se fait une idée.
Erwan, emballé par ce tome.
C'est ça aussi la magie.
Eh ben, totalement. Et en plus, j'ai toujours pas lu. Je l'ai acheté à la Comic Con parce que j'avais zappé la sortie. Et ouais, j'ai hâte de lire aussi. Ouais.
On va laisser l'univers Valiant de côté pour le moment en tout cas. Gageons qu'on y reviendra prochainement. On va rester du côté de ce qui est plutôt indé avant de partir chez Panini et Marvel. Erwan, toi, tu as lu Green Valley.
Ouais, j'ai lu Green Valley qui est publié chez Delcourt, si je dis pas de bêtises. Et c'est de l'indépendant. Et j'en lis très peu, donc c'est assez rare. Et quand j'en lis, en général, c'est plutôt bon. Donc je suis assez content d'être tombé dessus par hasard. Au niveau des personnes aux commandes, bah, c'est aussi du très bon. Il y a Max Landis qui avait écrit l'excellent American Alien chez Urban. Mm-hmm. Et comment il s'appelle, Monsieur Kamunkoli, Giuseppe Kamunkoli, qui avait fait Spider-Man. Et donc déjà, rien que ces deux-là aux commandes, c'est déjà un gage de qualité. Et au niveau de l'histoire, faut aimer les récits un peu what the fuck. En gros, pour l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire de chevaliers qui sont un peu, comment dire, tête brûlée, qui se la pètent. Ils sont que quatre, donc les chevaliers de Kelodi. Et à eux seuls, ils disent qu'ils peuvent terrasser en fait une armée de sauvages, ce qu'ils font. Sauf que à être trop prétentieux, eh bien, on se brûle un peu les ailes. Et donc c'est ce qui se passe. Donc leur village est attaqué, ils sont déprimés et ils doivent un peu remonter la pente jusqu'au jour où quelqu'un débarque dans leur village. Au secours, les chevaliers de Kelodi, on a besoin de vous. On est attaqué par un sorcier. Et en gros, bah, ce sorcier, au fil de l'histoire, on s'aperçoit que c'est pas vraiment un sorcier. Et que va se mêler à ça un peu de la science-fiction avec des choses futuristes. Et donc ça mélange un récit, comment dire, médiéval, futuriste, et je trouve pas le mot. Et ça c'est un peu embêtant. un truc déjanté quoi. Okay. Parce qu'on s'attend pas à avoir un truc médiéval avec un vaisseau spatial quoi, concrètement.
Ouais.
C'est pas du spoil. Mais non, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment drôle. Ça fait un peu Kaamelott par moment au niveau des vannes. Et ouais, l'histoire est sympa. Max Landis, c'est bien écrire. Faut savoir qu'il bosse au cinéma aussi. Il a fait des séries qui sont géniales. Et là-dessus, ouais, on se trompe pas. Il a encore fait un truc cool. Et je pense que ça vaut le détour. Je sais pas si vous l'avez lu.
Alors moi je suis alors franchement j'ai vu que tu avais lu ça, je n'avais jamais entendu parler du truc. Alors parfois il y a certains titres comme ça, je vis dans une grotte. Donc ouais, là celui-là franchement. Et puis c'est quand j'ai vu le nom de Max Landis, je me suis dit ah quand même, peut-être que je devrais jeter un oeil. Mais après j'ai dû.
Ouais, bah, genre, je connaissais pas non plus en fait, c'est ma libraire qui me l'a conseillé quand je suis allé la voir. Et elle m'a dit, prends-le, c'est génial, tu vas voir. Donc je l'ai pris sans. J'ai eu Landis aussi, hein, comme toi, j'étais ravi, j'ai fait, ok, bah, je le prends sans problème. Puis ouais, non, c'est sympa, c'est un récit complet en plus, donc c'est en un tome. Et ça se lit plutôt bien, les dessins sont cool et ouais, c'est marrant, c'est assez marrant.
Ah, le côté récit complet, c'est un autre bon point, c'est clair. Après, j'ai un peu de mal quand même avec les bouquins de chez Delcourt. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais?
Leur maquette ou je ne sais quoi. Je sais pas. En général, quand je suis dans un rayon VF, ce qui est déjà hyper rare, c'est clairement la partie du rayon que je regarde pas.
Pourtant, il y a l'excellent Birthright qui est chez eux.
Que je lis en VO.
Ouais.
En TP, en VO, ouais. En même temps, je lis presque exclusivement de la VO maintenant, à part vraiment de rares exceptions. Donc, et du Delcourt, bah, je m'aperçois que bah, j'en ai pas un, quoi. Bizarre.
Ouais, bah, je suis comme toi en fait.
Bizarre, bizarre. Par contre, du Glénat, j'en ai quelques-uns. Et puis, bon, ceux-là, je ne risquais pas de passer à côté, puisque c'est de notoriété publique pour ceux qui nous écoutent depuis quelques temps maintenant. Moi, Archie, c'est mon truc. Donc, du coup, quand j'ai appris que la licence des comics Archie avait été achetée par Glénat, forcément, je devais tester, même si j'ai déjà lu les trucs en VO, évidemment. On en est déjà à 4 tomes sortis chez Glénat dans la gamme Riverdale présente, avec un joli design Riverdale comme le titre de la série Netflix, enfin CW, Netflix en France. Ils ont décidé de surfer sur la série pour introduire leur gamme, la série ayant plutôt de bons échos, oui pourquoi pas. Je suis pas. On en est donc à une publication, j'avais déjà vite fait parler de celle-ci, c'était juste Riverdale tome 1, c'est des épisodes qui sont liés à la série télé, qui sont complètement sans intérêt pour moi. Moi ce qui m'intéresse surtout et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les séries principales d'Archie Comics, qui sont Archie, Jughead et Betty et Veronica. Les tomes 1 de ces trois séries sont maintenant sortis, le dernier en date je crois c'est Jughead qui est sorti là, tout récemment, il y a quelques jours.
Oui.
Et en plus, en 2019, et ça on l'a appris il y a peu de temps, Glénat va sortir les titres horreur de chez Archie. Donc sans doute du Sabrina, et sans doute enfin Afterlife with Archie pour les lecteurs français. Les petits chanceux
Tu
qui
t'en as
lisent,
oublié un?
lequel?
Vampironica.
Évidemment! Évidemment! Vampironica. Et puis peut-être Jughead the Hunger pour être complet.
Ils en parlent pas de ça, mais oui.
Ah, ils ont annoncé Vampironica?
Normalement, oui. Ouais,
Ah
ouais.
ouais, ok. Ah bah moi j'ai juste eu vent en fait, comme ça, rapidement, qu'ils avaient publié ce pan-là de l'univers Archie. Donc je balançais les titres sans trop être sûr que ça allait être publié. Eh bien tant mieux, alors nous allons bien nous amuser. Mais en attendant, c'est Archie, tome 1. Alors, quand même des grands noms hein, sur ces séries. Glénat n'a pas pris trop de risques en faisant l'acquisition de la licence, parce que quand on voit les équipes à la tête des trois séries, on se dit qu'a priori en France, ça peut avoir de bons échos. Archie, tome 1, c'est Mark Waid au scénario, rien de moins, et Fiona Staples au dessin, j'ai envie de dire Fiona Saga Staples, qui va être vite relayée par Veronica Fish, qui prendra la suite de la série. Ce tome 1 est très introductif. Dès le premier épisode, Archie casse le quatrième mur et nous accueille à Riverdale. Et il va nous emmener un petit peu dans sa vie. Sa vie, c'est quoi? C'était Betty. Betty, sa petite amie depuis toujours, avec qui il a rompu dans l'été à cause du lipstick incident en VO et de l'incident du rouge à lèvres. Hashtag accident du rouge à lèvres, c'est quand même pas mal. Un bien mystérieux incident qui a provoqué cette rupture. Personne ne pouvait s'imaginer à Riverdale qu'un jour le fameux couple Betty et Archie se sépareraient. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Ça met un petit peu Riverdale High en émoi. Tout le monde essaie de savoir ce qui a bien pu se passer. Et bah, on le saura bien plus tard dans le tome. On va garder le suspense là-dessus. Les événements gens autour de cette rupture ne sont pas les seuls. On a également l'arrivée d'une famille à la ville de, dans la ville de Riverdale, la famille Lodge, qui est donc la famille de Veronica. Et on introduit ainsi, du coup, l'éternel triangle Archie, Betty, Veronica, qui dure depuis 70 ans maintenant. Archie a toujours eu du mal à choisir et c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. On nous présente également tous les autres personnages, Jughead, Moose, Dilton, enfin tous ceux que vous pouvez voir aussi dans la série Netflix. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, c'est assez frais, ça nous change un petit peu de ce qu'on pouvait lire sur l'ancienne version d'Archie, notamment graphiquement. On va pas se cacher que il a pris un bon coup de frais, le père Archie. Franchement, ça passe, c'est drôle. C'est évidemment un triangle amoureux. On a des intrigues de lycée, etc. Donc, on va pas s'adresser à un public. Voilà, le public qui va chercher des comics genre Punisher va pas aller lire Archie, hein, c'est clair. On parle à d'autres gens. En tout cas, moi, ça me parle, ça me plaît. Même si je suis un vieux trentenaire, cette petite fibre éternelle amateur de Teen Show, voilà, vibre quand je lis ça. Des intrigues, franchement, voilà, on va pas révolutionner le monde. C'est des intrigues de soap très classiques. Mais juste, ça marche. Et c'est souvent bien senti et souvent drôle. J'imagine, Erwan, que tu as dû au moins jeter un œil à ça.
Oui, et je suis comme toi, tout ça, j'adore. Moi. Mais ouais, j'ai lu les deux premiers tomes, mais je les lis en VO,
ouais.
Les TP. Et j'ai les deux autres qui m'attendent, les deux suivants. Et non, pareil, ouais, j'adore. C'est drôle. C'est teenager, comme tu dis. Et non, c'est drôle.
Oui, voilà, c'est la lecture qu'on va. On va pas lire ça pour se prendre la tête, hein, loin de là, au contraire. C'est très différent de l'ambiance de ce que vous pouvez regarder sur Netflix pour ceux qui regardent la série. On est quand même à milieu de la série sombre. Hein, on a gardé vraiment que le côté teen. Donc c'est aussi. Oh.
Il y a le côté what the fuck aussi qui revient. Les situations sont un peu rocambolesques par moment, donc ça,
ah oui,
on le retrouve.
Ça, le côté what the fuck, on l'a. On en parlera plus tard quand on fera un petit point sur les dernières séries télé qu'on a vues. Du what the fuck, on en a eu récemment aussi dans la version télé. Vite fait, j'enchaîne sur Jughead. Jughead, c'est scénarisé par Chip Zdarsky et c'est dessiné par Erika Anderson. Et bah, c'est pas super beau déjà. J'ai beaucoup de mal avec les dessins de Erika Anderson. Betty ressemble la plupart du temps à Squirrel Girl et ça, moi, ça me dérange. Ça m'a sauté aux yeux dans ma lecture du truc VF. Il y a des fois des moments de Betty de profil. Ouais, je vois Squirrel Girl. Et Squirrel Girl, pas facile à dire. Et ouais, ça me plaît moyen. Dommage parce que le scénario...
Qu'à dire Écureuillette ?
Écureuillette, exact. Nous sommes en VF, excuse-moi. pardon. L'intrigue, pourtant, elle est cool. Enfin, elle est dans la veine de ce qu'on a pu lire sur la série principale Archie. On a un événement qui se passe dans le lycée de Riverdale High. C'est que ce lycée change un petit peu d'orientation politique. Et le directeur qui était à sa tête, le fameux principal Weatherby, sa tête est tombée. On nous a mis un nouveau principal qui va changer du tout au tout. Et la vie quotidienne des lycéens. Et va surtout toucher au point le plus important pour Jughead, la nourriture. Fini les vrais repas, on va servir une espèce de porridge, du gruau. Et quand on connaît le goût de Jughead pour la nourriture, on sait qu'il ne va pas rester sans rien faire. Il va entrer en rébellion, il va entrer en guerre contre ce nouveau proviseur à cause de ces questions de nourriture. Dans le premier épisode, évidemment, il ne mange pas, hein, ce qui est servi à la cantine. Donc il va faire un espèce de malaise, à la fois par manque de nourriture et aussi sous le choc de cet événement. Et il va être, on va assister à ce qui se passe dans sa tête pendant son malaise, une espèce de rêve très médiéval. Et dans chaque épisode, comme ça, on va voir des choses dans le monde réel et dans des mondes fictionnels avec de gros clins d'œil à des monuments de la pop culture, évidemment du Game of Thrones, évidemment du super héroïque, du Man from Uncle également. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Alors c'est très what the fuck, hein. Si vous aimez les délires à la Chip Zdarsky, parce que là on est purement dans les délires à la Chip Zdarsky, eh ben foncez parce que ça, vous allez adorer. Mention spéciale pour moi pour les deux derniers épisodes avec les Super Teens qui ont leur série en VO, qui ont eu leur série en VO et qui reviennent de temps en temps. Ces versions super héroïques des personnages de Archie Comics. Moi j'aime bien ça. Voilà, référencé à mort, What the fuck à mort aussi, pas super bien dessiné, mais... Enfin pas super bien dessiné, à mon goût en tout cas, mais en tout cas moi je conseille tout de même, ne serait-ce que pour le scénario et pour le grand n'importe quoi auquel Chip Darsky nous a déjà habitués plusieurs fois.
Moi ça me tentait pas du tout ça.
C'est
C'est
différent.
une des séries qui me tentait pas chez Archie, ouais.
C'est pas le même ton, quoi. C'est pas. On est moins dans le côté teen soap qu'on peut connaître sur Archie et sur d'autres séries de la gamme. Là, on est plutôt dans du comique, du grandiloquesque. Enfin, voilà, des trucs vraiment. Ouais, un peu over the top, on va pas se mentir. Et puis,
Ok,
on a Betty et
bon, à
Veronica.
voir.
Comment?
Non, j'ai dit à voir, à voir.
Oui, à voir. Voilà, si vous aimez Chip Darsky, c'est au moins à tester pour le bonhomme. Après, si vous accrochez pas à ce qu'il fait, notamment chez Marvel et dans d'autres projets qu'il a pu faire, franchement, ça sert à rien d'aller voir parce que c'est du Darsky tout craché. Voilà, et c'est même du Darsky qui se lâche encore peut-être plus que d'habitude sur certains trucs des fois. Et puis, on parlait de grands artistes, et ben on a Monsieur Adam Hughes aussi, du côté de chez Archie. Et Adam Hughes, il s'occupe lui de la série Betty et Veronica, dont le tome 1 est sorti le mois dernier, je crois. Betty et Veronica, c'est les amis ennemis, les meilleurs ennemis de Riverdale. Et au début de ce bouquin, et ben elle se déchire. Elle se déchire, pourquoi? On ne sait pas. Et on va remonter tout le fil de l'histoire, les racines de ce conflit. Et Adam Hughes a choisi comme narrateur le chien de Jughead, qui s'adresse à nous et qui nous raconte un petit peu, de son point de vue, comment l'histoire a commencé. C'est là aussi drôle, c'est bien senti. Alors quand on suit un petit peu les trois séries, c'est ça qui est assez particulier aussi, c'est que tout n'est pas forcément en continuité l'un par rapport à l'autre. Les événements de Betty et Veronica et les événements d'Archie sont pas forcément raccord, mais ça c'est la volonté de l'éditeur aux États-Unis. On a un univers partagé, mais c'est plutôt un grand bac à sable dans lequel on s'amuse et on ne sait pas vraiment quand telle histoire se déroule par rapport à telle autre histoire. Et c'est typiquement exactement le cas par rapport à Betty et Veronica, parce que quand ça commence, Veronica est installée à Riverdale depuis un bon moment déjà et elle est bien intégrée à la bande. Et c'est hyper plaisant de la voir se crêper le chignon avec Betty. Franchement, voilà, c'est là on a le côté guerre entre les deux et quand on parle de guerre, ça va, oui, ça va vraiment vraiment loin par moment, avec les petits commentaires du chien, toujours bien sentis et toujours assez mordants. Moi, ça marche sur moi. Je pensais pas parce que voir une énième série Betty et Veronica avec une prise de tête encore. Je me disais, allez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore à propos d'Archie, parce qu'elles se battent pour le cœur d'Archie. Eh bien, spoiler, non. C'est pour complètement autre chose. Et ça a du sens. C'est intéressant. Les origines de ce conflit sont assez intéressantes. Et on touche au côté un peu militant de Betty. Donc, forcément, ça fait des étincelles. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Adam Hughes joue bien sur les clichés qui peuvent être liés aux chiens parfois aussi, au niveau du lexique. Et voilà, et on a même droit à la petite blague qu'on a tous utilisée peut-être en tant qu'excuse auprès de l'école, de la maîtresse. C'est mon chien qui a mangé mes devoirs. Et bien, peut-être que le chien a aussi mangé les devoirs d'Adam Hughes et il en joue de manière assez savoureuse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. Tu l'as testé celui-là?
Eh ben non plus.
Eh ben non plus. Eh ben
Non, non,
à
toujours
tester
pas.
peut-être. Par contre, petite critique, coup de gueule. Vous êtes gentil, hein, Glénat, mais trois épisodes? Merde, quoi. Alors, c'est pas
Pour
cher,
quel
hein.
prix aussi?
C'est une 10, c'est 12. Ah non, c'est bah, toute la gamme Archie, c'est le même prix. De toute façon, c'est 12,50, c'est du souple. Mais là, on a trois épisodes. Donc
Ouais.
ça pique un peu quoi. Trois épisodes plus un épisode bonus Jughead.
Mais est-ce qu'il se calque pas sur les TP? Parce que Archie, par Wide, en fait, c'est le même prix, j'ai l'impression que le TP est anglais, quoi.
Archie par Mark Waid, c'est aussi 12,50 €. C'est l'équivalent du TP US volume 1 exact avec les six premiers épisodes.
Ouais, c'est le même prix, donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont calqués sur le
Ah oui,
modèle VO.
ils sont calqués sur le modèle, mais du coup là, ils pourraient faire voilà aussi un boulot d'éditeur un peu plus et se dire bah trois épisodes, ça déconne un peu. Peut aussi varier sur le prix quoi, quand on a entre trois épisodes du côté d'Archie, de Betty Veronica, six du côté d'Archie, six du côté de Jughead, le même prix, bon.
Ouais, c'est vrai. Vu comme ça.
Mais en tout cas, c'est bien sympathique tout ça, et amateur de teen show et peut-être aussi même de la série Riverdale, allez jeter un œil du côté de ces bouquins hein, qui sont plutôt accessibles niveau prix et plutôt accessibles aussi si vous ne connaissez rien à l'univers du personnage. Allez, j'arrête mon instant propagande. Et Anthony, tu vas faire le tien, puisque une émission sans que tu parles de Marvel, c'est pas possible.
Et donc Defenders tome 2, donc c'est Brian Michael Bendis et dessiné par David Marquez. Donc le tome 1 avait été chroniqué à l'écrit sur le site, c'était très beau et c'est toujours splendide. Vraiment, David Marquez, c'est assez fou. Mais c'était assez mal écrit dans tout temps ici, puisque donc ça prend la suite directe, c'est-à-dire qu'on va suivre encore une fois comment dire, les aléas criminels de Diamondback mêlés auxquels. Il est toute une galerie de personnages liés à la pègre Marvel, donc évidemment le Caïd, mais forcément Brian Bendis oblige, et petite précision, ça fait partie de ses derniers numéros qu'il a écrit chez Marvel, puisque maintenant l'auteur est chez, on va dire, la concurrence chez DC Comics,
Merci pour
donc
le cadeau.
forcément, mais donc forcément, vu que c'est son dernier baroud d'honneur sur des personnages, on va dire, street. Netflix, je pense que ça convient mieux maintenant que Street. Il va nous ramener Robin Hood, Robin Parker, ou Parker Robbins, je ne sais plus. Et donc c'est The Hood. Et donc t'es le vilain fil rouge de tout son travail sur New Avengers, de dialogue assez interminable où l'encapé rouge déambulait dans une salle complètement noire au milieu d'une table circulaire entourée de losers super vilains qui n'avaient finalement pas beaucoup de sens puisque ça durait des numéros entiers. Et finalement, il va nous refaire ça sur toute une partie du numéro puisque l'un des seuls bons points du volume et de tout ce Bendisverse, on va dire, qui partage notamment avec Spider-Man, c'est que il va refondre un petit peu le monde de la pègre Marvel puisque dans Spider-Man, donc la série avec Miles Morales, je précise, on se rendait compte que c'était Felicia Hardy qui reprenait en fait la main de la pègre criminelle de New York. Ça va se concrétiser ici. Elle va devoir s'opposer à Diamondback, forcément au-dessus de lui, le Caïd. Donc ça, c'est pas trop mal, il faut être tout à fait honnête. Bon, à côté de ça, Netflix oblige, Bendis se voit obligé d'y intégrer Elektra, tellement pourquoi. Il sent obligé d'y intégrer le Punisher, de la même manière, on sait pas tellement pourquoi. Deadpool fait un saut. Alors là, on sait pourquoi, parce que ça rapporte du pognon, tout simplement. Et malheureusement, c'est assez indigeste à lire, je trouve. C'est pas super bien écrit, c'est pas super bien dialogué. C'est une sorte de Netflix All-Star, mais comment, mais en papier, en fait. En fait, ça aurait pu être très clairement un titre numérique pour le coup, mais qui aurait été une sorte de complément à l'univers Netflix. Qui n'adapte que des personnages street, et c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. C'est assez déconnant au niveau dialogue. L'histoire a pas vraiment de sens. Et en plus, voilà, on a l'impression que c'est le best-of de ce qu'a fait Bendis ces dernières années, puisque vraiment le retour de The Hood, il apparaît sur la moitié du tome. Puis forcément, vu que l'auteur va s'en aller à la fin, bah, il faut bien que le personnage. Comment disparaissent à la fin du volume, puisque bah, j'imagine que personne ne veut le réutiliser, puisque bah, on n'a pas eu de signe avant-coureur de son retour. Et dernier point, le manque de cohérence totale de cette série en deux tomes, je le précise, c'est donc le dernier volume de Defenders. En fait, à la toute fin, on a une sorte d'alliance de héros street qui vont se liguer de Hood et on va dire, sa cabale. Alors, on va y retrouver forcément les Defenders, donc Dédé. Donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, un Moon Knight, les Spider-Men, Misty Knight, Colin Wing, donc Ronin. Donc ça, pour le coup, c'est ce Ronin, c'est logique. Blade, alors Blade aussi était là dans le tome 1, j'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Mais par contre, à la fin, Bendis, il nous met Valkyrie, Black Panther, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle?
Ah,
Bah, l'élève. De Clint, je ne me souviens plus de
Ah,
son nom.
l'élève de Clint Barton, c'est... Eh ben, je m'en souviens plus non plus, mais c'est la
Oh, j'ai un
Hawkeye,
énorme trou.
c'est la Hawkeye fille, quoi. Lang, Cassie Lang.
Non, Cassie Lang, c'est Stature.
Oh, bah alors, là, c'est l'autre. Du coup, je l'ai pas, je l'ai
C'est
pas.
l'autre. J'ai un énorme trou, donc vous voyez très bien qui c'est, sauf qu'en fait, le personnage est actuellement à Los Angeles. Donc j'ai aucune idée de ce qu'il vient foutre à New York. Enfin, la dernière page, c'est nul. On a câble en fond, ça n'a aucun putain de sens. Et toute la série est comme ça.
Oh, c'est Bendis qui se fait plaisir une dernière fois avec les personnages Marvel.
Et ouais, c'est ça, mais par exemple, il y a un combat entre comment Iron Fist et Elektra, donc qui sont deux maîtres des arts martiaux. Bon, même si Daredevil l'est tout autant, mais là, c'est quand même la référence en matière de corps à corps. Donc c'est vraiment super beau, c'est du case par case avec du, je vais compter en direct, du 16 cases par page. Donc c'est vraiment, ça te permet d'avoir une synchronisation et une chorégraphie qui est, moi, je trouve assez inédite ces dernières années. Enfin, c'est vraiment, au dessin, c'est vraiment splendide. Nul, c'est vraiment nul, c'est une des plus grosses déceptions de ces derniers mois que j'ai lu chez Marvel. En même temps, à quoi je devais m'attendre, puisque c'est ni plus ni moins que Netflix Comics, en fait. Vraiment, ça allait pas du tout, donc je conseille pas du tout Defenders, en fait. Vraiment pas.
Ça sent le boulot de commande aussi un peu, non? Il fallait faire une série Defenders parce que il y avait la série sur Netflix et du coup on appelle qui? Bah on appelle Bendis parce que les personnages street, voilà, c'est peut-être celui qui les écrivait les mieux, le
Dans
mieux.
les têtes communes affiliées au Marvel Knights, on va dire.
Ouais, voilà. Mais du coup,
Oui, sans
voilà.
doute, mais enfin, du coup, c'est très mauvais, quoi. C'est vraiment très mauvais.
Autant que la version vidéo du coup.
D'autres choses à dire.
Bah, moi j'ai pas lu ça, hein, donc mais en même
Je te
temps,
le conseille pas du tout.
je voyais Marvel, je voyais Bendis, voilà, c'était pour moi l'association qui faisait que j'allais pas lire. Et puis en voyant la
Bah, t'as bien
couverture
fait.
avec les quatre personnages finalement de la série télé et tout, ouais non. On va enchaîner sur les séries télé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'adaptation télé. Finalement, parler de Defenders, ça fait une belle transition. On va pas vous parler de ça. On va vous parler de choses qui, a priori, nous ont un peu plus emballés et c'est pas difficile. Par quoi commence-t-on? Allez, peut-être parler un petit peu de DC, puisqu'on n'a pas parlé du tout de DC Comics dans cette émission. Et c'est bien trop dommage. Donc on va tout de suite réparer cette erreur. Et on va peut-être parler de la série un peu événement de cette rentrée du côté de chez DC, parce que c'est le premier projet du DC Universe, le service lancé aux États-Unis. Je parle bien sûr de Titans. Alors toi, Anthony, je crois que ça t'intéresse pas du tout, cette série, comme la plupart des séries télé d'ailleurs. Mais par contre, Erwan, toi...
Moi j'adore. J'adore et franchement, comment dire? Non, c'est cool. Pour un premier projet DC Universe, je le trouve pour l'instant rondement bien mené. Au niveau du contenu, au niveau de la noirceur et au niveau de la fidélité aux comics, puisque là ils sont revenus aux sources par rapport aux histoires. Et là-dessus, ouais, franchement, chapeau. Et je suis vraiment pressé de voir ce qu'ils vont faire pour les autres séries. Parce que si celle-là déjà est cool au niveau du contexte, les autres, ça sent plus tombant aussi.
Alors moi, je n'ai vu que le premier épisode, je l'ai vu aujourd'hui exprès parce qu'on allait enregistrer. Toi, je sais que tu es à jour, donc aujourd'hui, tu as vu le quatrième, c'est ça?
Ouais,
C'est
le
ça.
quatrième, ouais.
On va essayer de pas trop spoiler, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, surtout que c'est pas encore arrivé dans nos contrées. Netflix le proposera a priori, mais une fois tout diffusé, si j'ai bien compris.
Il n'y a rien qui est sûr encore.
Il n'y a rien qui est sûr, ok. Bah peut-être aussi
Ouais.
que... Ça va dépendre aussi de la décision que prendra DC Warner à propos du lancement de cette plateforme en France, parce que pour le moment, on n'a vraiment aucune nouvelle quant à l'international par rapport au DC Universe.
Ouais.
Et du coup,
Ça devrait pas tarder.
peut-être qu'ils réfléchissent à deux fois avant de céder les droits de série, comme l'avait fait Netflix, notamment avec House of Cards et Canal+, et s'apercevoir qu'après, une fois qu'ils se lancent, c'est un peu compliqué, quoi.
Mais est-ce que les Français seraient prêts à lâcher Netflix pour aller vers DC Universe? Je suis pas sûr. Donc c'est pareil, il faut qu'ils pèsent
Bah, de toute façon, on va
le pour
avoir
et le
un
contre.
vrai problème de multiplication des plateformes, hein, parce que Disney va lancer la sienne, donc du coup, forcément, ça sous-entend Marvel. Et c'est pas les seuls, hein, on a au moins 3 ou 4 nouvelles plateformes qui vont arriver, et bah, clairement, même le marché américain, impossible d'absorber tout ça.
Non, ça va s'effondrer à un moment ou à un autre, de toute
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est du coup Titans.
façon.
J'ai été franchement aussi emballé par le pilote. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je le regardais en me disant, allez, au pire, ça sera nul, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, bah, pas du tout, quoi. Effectivement, le côté sombre que tu soulignais, moi, ça m'a bien plu aussi. Alors, ce pilote, hein, c'est le festival du name dropping et des clins d'œil à l'univers DC. Hein.
Oui.
Clairement, ça va jusqu'au symbole de Dr. Fate sur le sac à dos
J'ai même
de
pas vu ça.
ouais, sur le sac à dos de Raven.
Ouais.
Elle a son petit sac à dos avec l'ankh, du coup, le symbole égyptien là, qui correspond à Dr. Fate. Et voilà, et c'est comme ça pendant tout l'épisode. Donc, moi j'ai adoré. Moi, dès qu'on me fait des références, qu'on me cite des choses par rapport à l'univers DC, j'accroche. Et là, j'ai été servi. Visuellement, j'ai été surpris aussi. C'est hyper
Oui.
propre. C'est beau. La scène, notamment avec les Flying Graysons, j'ai bien plu. Ça m'a bien
Ça,
plu.
c'est beau, ouais.
Ouais, c'est une belle séquence avec la main de Bruce Wayne, voilà. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Bah, surtout que ça reste autant fidèle, quoi, parce que... Bon, après, je sais pas trop... Moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, c'est pas vraiment Titans, c'est plutôt Teen Titans, en fait, ce qu'ils ont fait. Mais je pense que c'était pas vendeur,
Ah, c'était pas
Teen
vendeur, et
Titans.
puis quand on voit Dick Grayson, par exemple, bah, il est plus très teen, quoi.
Ouais. Et quand on regarde la suite, pas bah, la suite, mais au niveau des titres, des épisodes, alors ça va peut-être spoiler si je dis le titre, hein, je sais pas trop.
Oh, tu peux, parce que ça a été le titre de l'épisode 4, j'imagine.
Alors, le titre de l'épisode 2, bon, déjà c'est Hawk and Dove, donc déjà ils intègrent des nouveaux personnages qui sont dans les Titans, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et épisode 8, le nom c'est Donna Troy. Donc ça veut dire que ça intègre encore d'autres personnages derrière. Donc ça c'est cool.
J'avais pas connaissance de ce titre-là, parce que j'ai vraiment. Ouais, j'ai pas regardé grand-chose à part la bande-annonce, et encore, je sais même pas si je l'avais vu. Et ouais, tu me fais plaisir, là.
Bah, l'épisode 4, le titre c'est Doom Patrol et ça aussi c'était cool.
Ouais, tu l'as vu du
Mais là
coup
pour
et.
l'instant, je l'ai vu ce matin, ouais, et ce qu'il faut, et c'était pas bien d'ailleurs, ce qu'il faut avoir en tête c'est que les quatre premiers c'est des quatre introductifs pour chaque personnage. Le premier il intégrait, en fait il situait celle qui vient de Coriandre.
Eh ben Cory Andrews, il l'appelle.
Oui. Donc Starfire.
Ça va être Starfire, voilà.
Donc ils situent un peu Starfire, c'est un peu flou pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi elle est comme ça. Épisode 2 de mémoire, c'est centré sur Raven. Épisode 3, c'est sur Dick Grayson. Et épisode 4, on est centré sur Garfield, donc Beast Boy. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur l'introduction des quatre personnes qui les rattachent à chaque univers et qui en plus bah, leur donnent un lien tous les quatre entre eux.
Ouais, bah Beast Boy apparaît
Est-ce
hein,
que...
à la fin du pilote déjà, il aura sa petite scène introductive plutôt classe, je trouve.
Ouais, mais tu le reverras qu'à l'épisode 3.
Et bah, j'ai bien aimé cette construction dans le pilote. J'avais un peu cette crainte aussi de me dire est-ce qu'on va avoir droit au truc classique où on va nous présenter tous les membres de l'équipe à la chaîne pendant cet épisode et qu'à la fin ils vont se rencontrer, etc. Le truc vu et revu, etc. Et non, c'est beaucoup plus organique que ça. C'est beaucoup mieux intégré au niveau scénario. Ils vont pas se rencontrer tous tout de suite et ça m'a plu.
Bon, après, ça tombe quand même comme un cheveu sur la soupe, le moment où ils se rencontrent tous les quatre en même temps, c'est vraiment sorti de nulle part, quoi. C'est vraiment, le monde est grand, pour qu'ils se rencontrent à cet endroit-là, à ce moment-là, je trouve ça un peu gros.
Donc ça
Mais
c'est
voilà.
dans des épisodes plus tard. Moi j'ai pas encore vu ça ou alors je me suis endormi si ça m'est arrivé dans mon épisode. Mais
C'est plus tard. Non, c'est plus tard.
voilà déjà la rencontre. Bon c'est vrai que c'est un peu convenient comme on dit la rencontre entre Dick et Raven dans ce commissariat. Bon
Ouais.
pourquoi cette ville? Pourquoi ce commissariat-là? Oui évidemment il y a un petit peu de petits coups de pouce du scénariste. Mais malgré tout ça marche mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc pour le moment c'est plutôt la bonne surprise et ça lance plutôt bien le DC Universe, je suis bien d'accord avec toi. Et si on doit se tourner vers l'avenir, moi il y en a une qui me chatouille, c'est Swamp Thing.
Oui. Est-ce qu'ils vont la faire en série comme ça ou en dessin animé comme pour Harley Quinn?
Alors j'ai pas cette info-là. Moi je l'avais compris comme étant une série plutôt live, mais peut-être qu'effectivement ils prendront l'option animée. Je guette pas trop les news, j'avoue. Je me préserve de plus en plus du spoil, des bandes-annonces, des trucs, parce que j'ai trop l'habitude de voir tout le film dans une bande-annonce ou toute la série dans une bande-annonce. Donc maintenant j'évite un peu tout ça. Donc je sais pas. Mais même si c'est une série animée
Je
à la
pense à
rigueur.
un film. Ouais, mais ce sera moins ambitieux en fait. En vraie série, avec des vrais acteurs, ça c'est vraiment ambitieux quoi.
Bah là pour le coup oui, ne serait-ce que pour faire un rendu propre de Swamp Thing. Ouais, là,
Et
c'est
du
tout.
tribunal. Et
Oui.
du tribunal surtout.
Ouais, tout, quoi. Non, ouais, j'ai hâte de voir ça maintenant que je suis rassuré par ce premier épisode de Titans. Alors évidemment, il y en aura d'autres, hein. Peut-être que cette première impression, voilà, je vais déchanter, mais j'ai pas l'impression, et ton avis sur les 2, 3 et 4, a priori, voilà, me conforte et c'est plutôt cool. Anthony, est-ce que tu es revenu parmi
Ouais.
nous? Ouais, pas vraiment en fait.
Allô?
Ah si, tu es revenu. Titans, toi, tu t'en fous.
Enfin, très honnêtement, oui, j'ai pas accroché à l'univers CW, enfin l'univers DC par la CW plutôt.
Ouais.
Donc non, très honnêtement, j'irai pas voir ça.
On est à des kilomètres de CW pourtant.
Là, pour le coup, ouais. Alors oui, il y a le nom de Greg Berlanti qui apparaît dans le générique, mais alors pour le coup,
Ouais.
rien à voir. Là, pour le
Il y a
coup,
Geoff Jones, un Camille Sapat, je pense aussi.
Ouais, je pense qu'il n'est pas étranger aussi à cette construction et à peut-être ce côté un peu plus mature. Donc ouais, si vous êtes fan de l'univers CW, par contre, du coup, là, accrochez-vous parce que vous allez être surpris. Vous allez peut-être découvrir que en fait, vous auriez pu avoir ça. Et vous risquez d'être un petit peu triste, du coup. Mais bon, moi je m'en fous,
Je confirme.
j'adore les Teen Titans et les Titans, du coup, maintenant, dans Rebirth. Donc voilà, je pense que je vais prendre bien mon pied avec cette série, donc c'est cool. C'est cool. Daredevil, saison 3? C'est le deuxième gros morceau de cette rentrée, on va dire, quand même. Je sais, Anthony, que toi, tu as déjà dévoré toute cette saison. J'ai commencé pour ma part, j'en suis à 5 épisodes. Et toi, Erwan,
J'ai tout fini aussi.
tu as tout fini aussi. Donc là, vous allez pouvoir parler tous les deux, du coup, de la globalité de la saison. Donc c'est cool. Même chose que pour Titans, on essaye de ne pas trop spoiler. Grosso modo, on est quand même à milieu de Defenders, d'Iron Fist et de toutes ces conneries.
Largement. Ok. Donc, effectivement, très long. Bah, de toutes ces conneries, oui, moi je considère que c'était mauvais. Après, ce n'est que mon avis. Maintenant, le
C'était
seul
chiant
petit.
surtout.
J'ai pas vu Iron Fist, j'ai pas vu Luke Cage saison 2, j'ai pas vu Jessica Jones saison 2. Donc j'ai pas voulu m'infliger ça, on va dire. La seule petite remarque introductive que j'aurais, c'est que malgré tout, le statu quo de cette saison 3 est lié à la conclusion de Defenders. Donc malgré tout, pour vraiment se plonger au mieux dans ce born again, avec d'immenses guillemets, version Netflix. Peut-être que le visionnage de Defenders est peut-être pas nécessaire, mais relativement conseillé, dira-t-on. Ça, moi, Daredevil, avec le Punisher, n'oublions pas, ça reste ce qu'a fait de mieux, ce qu'a produit de mieux la collaboration Marvel-Netflix, mais ça reste de très bonnes séries dans le cadre gigantesque qu'est la série TV aujourd'hui. Et cette saison 3 n'y échappe pas, puisque. Toujours sur le statu quo initial, donc Daredevil, Matt Murdock est présumé mort. Il est recueilli par l'église de Hell's Kitchen, une nonne en particulier, et le père auquel il se confie depuis les 2 saisons. À côté de ça, Foggy et Karen, bon bah font ce qu'ils peuvent de leur côté, et le Kaïd, donc est toujours emprisonné à l'issue de la saison 1, va un système de machination à très 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 grande échelle pour tenter de s'évader. Donc ce serait vraiment très long de tout résumer et de tout comment dire de tout détailler. Donc moi pour ma part j'ai vraiment apprécié grâce à plusieurs choses, notamment le rythme. Le rythme, moi le problème des séries Netflix que j'ai, et là c'est un commentaire général, c'est que j'ai vraiment du mal avec le format en 13 épisodes, parce que je trouve ça trop long, je trouve ça trop délié, et il y a toujours cet épisode 7, qui est un épisode de pause, qui en fait décrocher Altered Carbon. Moi, je redoutais vraiment ce jalon de l'épisode 7 et de cet épisode transition. En 3 de Daredevil gère magnifiquement bien son rythme, il y a toute une montée de pression et d'étouffement autour du trio principal jusqu'à la toute putain de fin. Donc ça, vraiment, c'est assez génial à suivre. Vraiment, la sensation d'étouffement et d'inévitabilité des événements, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je me comprends, est vraiment surprenante pour une série Netflix. Le ton est toujours entre une sorte de violence crue et une petite pointe de légèreté, mais assez bien sentie. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment de défaut à justement crier sur les toits autour de cette saison 3. Très franchement, alors malheureusement ou pas, on reste sur ce que savait faire Netflix, c'est-à-dire sur des combats pas dans des zones urbaines, que ce soit des parkings, des couloirs, des cages d'escalier. Donc bon, je pense qu'on peut tirer un trait sur voir Daredevil en costume moulant rouge se balancer entre les gargouilles de Eskilchen avec sa canne extensible. Ça, je pense que c'est clair. Donc, une fois que ce contrat-là est accepté puis signé, je pense qu'on peut qu'apprécier cette saison 3. Surtout qu'en plus du Kaïd, il y a un vilain relativement, on va même carrément appeler ça en fait la némésis de Daredevil, qui se pointe. Et ça va amener beaucoup de choses. Le seul vraiment défaut que je pourrais soulever, c'est la toute dernière seconde de la série, mais véritablement la toute dernière seconde de la série, que j'ai trouvé beaucoup trop évidente, subtilité, et c'est le seul loupé véritable de cette saison 3 qui, moi, m'a complètement ravi. J'y attendais plus rien des Marvels Netflix, et là, j'ai repris foi en l'expérience. Alors, suivi qu'il y avait eu certaines annulations en ligne, notamment de Luke Cage et Iron Fist, donc bon, c'est à la fois une surprise et c'était attendu, donc à voir ce qu'ils vont en faire ensuite. Mais ouais, cette saison 3, il faut avoir vu au moins les deux saisons de Daredevil et je pense quand même Defenders, ou au moins avoir lu un résumé, mais c'est du tout bon.
Moi pour les 5 épisodes en tout cas, ouais, c'est bon, j'ai l'impression de revenir à la maison du coup, après m'être perdu dans les rues et d'avoir frappé chez Luke Cage et chez Danny Rand, où là j'ai pas passé forcément un bon moment. Surtout parce que c'était long, parce que c'était pénible, voilà. Et là, ça y est, j'ai retrouvé le Daredevil que j'aimais bien de cette première série quand Netflix s'était lancé en adaptation Marvel. Et ça fait plaisir. Un peu plus de subtilité, un peu plus d'intérêt, un peu plus de punch. Encore que c'est quand même pas non plus grandiose niveau rythme, enfin niveau punch, on va dire. Donc ouais, non, moi je suis plutôt convaincu jusque là sur les 5 épisodes. Est-ce que tu as le même reproche sur la dernière seconde, Erwan ?
Eh ben moi j'ai pas compris ces dernières secondes. Parce que je pense que j'ai pas la référence. Donc du coup, j'ai vu la scène, j'ai fait d'accord, je sais pas ce que ça veut dire, ça va être un truc du comics, mais ouais, je connaissais pas.
D'accord.
Donc, pour m'expliquer.
Anthony m'a vendu m'a dit attends, tu vas voir la dernière seconde et tout.
C'est véritablement la dernière seconde avant que la série, donc que l'épisode 13 se coupe. Mais c'est en fait, c'est tellement évident tout le build-up qu'il y a tout au long de la série, et de la saison plutôt. Ça, mais c'est final, véritablement le final est raté, véritablement raté. À côté de ça, j'ai vraiment pas beaucoup j'ai pas grand chose à reprocher. J'ai vraiment aimé cette. Oui, je pense que tu l'as vu. Il y a une scène d'évasion dans une prison.
Oui, ça me dit quelque chose. Oui, avec la fumée.
Mais j'ai vraiment adoré cette référence ultime au départ de Brubaker sur Daredevil, quand il le fait échapper de Curse ou de quelle que soit la prison dans laquelle Bendis l'avait incarcéré à la toute fin. Ça m'a, pour une fois qu'on revisite pas Miller ou Bendis et qu'on va sur des runs, j'ai pas envie de dire plus confidentiels mais un peu moins renommés, notamment celui de Brubaker, j'ai vraiment adoré ce passage là
ouais, non, c'est sympa, c'est vrai. Je me rappelle bien de cette scène qui m'a bien marqué également. Eh bien, on va se dire que on va pas spoiler cette dernière seconde, évidemment. Mais par contre, la prochaine fois, une fois que j'aurai bouclé la saison et que la plupart de ceux qui nous écoutent auront aussi sans doute vu cette série, cette troisième saison, on ira débriefer ça, parce que du coup, là, je suis hyper intrigué, parce que j'en ai encore pour une petite semaine, je pense, avec cette série, mais ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut être, ce truc-là. J'espère que je serai pas déçu. Parce que là, tu m'as un peu vendu le truc. C'est dangereux, c'est dangereux.
Ok.
Tu parlais des annulations, et ouais, ça sent quand même pas très bon pour l'univers Marvel sur Netflix, mais est-ce que c'est vraiment une surprise ? On en parlait tout à l'heure en parlant de Titans et de cette multiplication des plateformes, et on sait que Disney veut lancer la sienne.
C'est ça.
Je suis pas hyper étonné du coup de voir que petit à petit toutes les têtes sont en train de tomber du côté du Netflixverse. Ça me semble.
Non, après on pourra se dire que l'ère Netflix nous aura pondu une trilogie Daredevil, pour moi assez excellente. Très, très honnêtement, ça se tient, c'est cohérent, alors j'aime pas trop dire ça, mais c'est relativement mature. Ça en oublie pas non plus une certaine légèreté quand il faut. Donc même s'il faut ranger tout ça, je Daredevil et Punisher. Je ne démords
Et je
pas.
rajoute Jessica Jones, parce que moi, les deux saisons de Jessica Jones, franchement, je les ai trouvées de franchement bonne facture. Je sais pas, Erwan, si tu ne suis que Daredevil ou si tu suis l'ensemble des séries sur Netflix. Mais en tout cas,
Je les ai toutes regardées aussi, mais c'est pareil, Luke Cage, j'ai abandonné. La saison 2, j'ai commencé à regarder, j'ai fait ah, ok, j'arrête. Il y a un côté prétentieux dans les personnages que j'accroche pas du tout.
Non, j'ai pas aimé
Et
non plus, je suis
je
d'accord
trouve
avec
ça un
toi.
peu mal joué en plus, parce qu'on dirait un peu des. Je sais pas comment dire, un comic show, quoi. Les gens, ils sont là, ils font leur sketch. Ouais. C'est très surjoué, c'est assez mal joué, donc ça, j'ai pas accroché. Et ouais, Jessica Jones, c'est cool, sauf le personnage. Voilà, j'ai plus les prénoms, c'est pareil.
Personnage de Jessica Jones.
L4.
Triche.
Triche, qui a été insupportable pendant toute la saison au niveau de son acting et de son comportement.
Je suis bien d'accord.
C'est les vieux clichés des années. Des séries des années 2000, en fait. Le personnage est. En 2018, faire une série comme ça, une saison comme ça m'a un peu dérangé. Pour ce qui est des annulations, par contre, Daredevil, ça sent le roussi un peu. A priori, il y aura une autre saison derrière. Mais ce qui a buté les gens, c'est le fait qu'il fallait regarder Defenders pour regarder les saisons 2. Donc les audiences sont pêchées, donc c'est annulé. Donc
Moi,
Daredevil peut souffrir aussi de ça pour la prochaine saison.
pour reprendre le teasing sur cette saison 3, Mathieu, je m'attendais vraiment à ce que la série emblématique, pour pas t'orienter,
J'ai pas entendu, t'as eu une coupe.
en fait, je m'attendais à ce que cette saison 3, à un moment, il te laisse planer, reprenne une scène emblématique
Ouais.
d'une série. Je vais pas orienter les recherches. Ils le font pas du tout et ils font même, ils en jouent d'ailleurs. Donc la saison 4,
Ok.
il faut qu'elle le fasse.
Ok. Eh bien, on verra cette saison 4. Et peut-être
Pas.
des clins d'œil au run de Charles Soule. Oh, et pourquoi pas, après tout, c'est bon.
Ce Order Draconis, pitié.
Moi, j'ai envie de voir
Ah,
des prêtres
pitié,
en
non.
jetpack, allez.
Moi.
Et puis,
Pourquoi
peut-être,
pas?
voilà, vu le titre du dernier arc de Charles Soule, voilà, ça peut avoir sens. Mais ne spoilons pas, puisque ça, c'est de la VO. Allez, on termine ce petit tour des séries avec, évidemment, on va revenir du côté de Riverdale, avec Erwan qui, lui, a regardé Sabrina.
Mais pas en entier.
Oh, c'est pas grave. Est-ce que c'est bien, Sabrina?
Eh ben, je pense que c'est bien parce que les gens ont l'air de bien aimer sur les réseaux. Après, moi j'ai un peu de mal puisque, comme je te disais, c'est que je compare beaucoup à la vieille série
Oui.
qui était plutôt tournée humoristique, les aventures de Sabrina avec Salem, le chat qui parle. Et là, je retrouve pas ça et en fait, c'est ça qui me manque un peu puisque moi, c'est ça qui m'avait fait accrocher dans la vieille série. Et j'ai un peu de mal et j'ai encore plus de mal avec l'actrice qui joue Sabrina, Kiernan Shipka. Puisque son jeu d'acteur me rappelle trop le jeu de Hermione Granger, et
Ah
c'est un peu
ouais.
binaire, et donc moi j'ai un peu du mal avec ça.
D'accord.
Mais après, non, c'est sympa, hein, c'est teen, quoi, c'est du Riverdale.
C'est le Riverdale côté magie, quoi.
C'est ça, c'est Greendale.
Voilà. Mais effectivement, ouais, c'est dans la veine de cette version de Riverdale sur Netflix, plutôt sombre. Enfin, en tout cas, le trailer que pour le coup j'ai vu, oui, il laisse quand même présager quelque chose de bien plus sombre que la série que l'on connaissait et plutôt dans la lignée de la série CW Netflix, on va dire. Qui a repris pour sa saison 3 et qui, bizarrement, elle aussi, se tourne du côté du mystique. Étrange.
Ouais, plus ou moins.
Voilà, un petit peu de. Oh, quand même, je me suis dit, il nous prépare quand même un peu le terrain sur sa. Enfin, pour la partie un peu mystique, magie, avec des trucs parfois un peu surnaturels. Tiens, il prépare le terrain pour Sabrina. J'aurais même pas été étonné qu'à la fin de l'épisode qui correspondait à la semaine avant la sortie de Sabrina, Archie ou je ne sais quel personnage se rende à Greendale. Histoire
On y a
de.
tous pensé, je pense. Mais non, même pas.
Non, même pas. Et bah, c'est presque dommage. Presque.
Ouais.
En tout cas, ce début de saison 3, là, on touche des sommets en termes de over the top. Là, pour le coup, moi, je pense à une scène de Pom Pom Girl.
Exactement.
Ah, et alors, d'où elles viennent, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont là. Et franchement, voilà, c'est dans l'épisode 3, je crois, ou épisode 2. Voilà, on a droit à cette scène assez. Ouais, voilà, c'est venu d'un autre monde. C'est venu d'un autre monde, Mais ça marche quand même. Enfin, moi, sûrement, en tout cas, ça marche. Je continue à bien aimer cette série et à la suivre avec plaisir. Et c'est doit être une des dernières séries. Il n'y en a pas. Je pense pas qu'il y en ait d'autres que je suive comme ça au fil des semaines. C'est assez
Bah
dingue.
après, Riverdale, ce qu'il faut se dire aussi, et ce qu'on n'y pense pas assez en fait quand on a la série, c'est que ce sont des adolescents qui sont au lycée, donc des lycéens.
Oui.
Et quand on regarde tout ce qu'ils font, bah, rien que le truc de Pom-Pom Girl devant la prison, ce sont des lycéennes qui dansent en Pom-Pom Girl devant des prisonniers, sous le regard du père. Il y a un truc qui, qui me dérange.
C'est bigrement génial.
Oui, c'est vraiment génial. Bah, disons que voilà, pour raconter un petit peu l'intrigue, sans trop spoiler, mais quand même en disant un petit peu quel est l'axe de cette saison 3, Archie se faisait arrêter en fin de saison 2. On a droit à son procès de manière très rapide dans le premier épisode de la saison 3. Et
Ouais.
ça par contre, ça m'a plu. Je me suis dit, au moins on évite la saison procès. Et ça, c'est cool, même s'ils essayent de rejouer le match, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a un procès, on a une décision qui est prise. Archie se retrouve, entre guillemets, incarcéré, parce que c'est pas vraiment une prison dans laquelle il se trouve. Et puis voilà, on a évidemment Véronica, sa petite copine, qui ne lâche pas l'affaire et qui veut entretenir cette relation. Et encore plus parce que son père veut l'interdire. Et alors ça, c'est peut-être plus que les sentiments qu'elle éprouve pour Archie, sa motivation pour entretenir ce couple, c'est peut-être vraiment le fait que son père soit contre. Pour le coup, et du coup, elle va organiser une corée de pom-pom girls derrière les grillages de la prison entre guillemets dans laquelle se trouve Archie. Et ça, c'est voilà, c'est hyper cool.
Ouais. Non mais de toute façon cette série c'est du second degré à fond quoi.
Oui, voilà, non, faut pas la prendre pour autre chose que oui, effectivement, une série qui traite d'adolescents qui ont des préoccupations de tout sauf de lycéens, effectivement. Je me demande même quand est-ce qu'ils trouvent le temps d'aller au lycée avec tout ce qui leur arrive.
Ouais.
Mais voilà, voir Véronica en tenancière de bar clandestin, je trouve ça quand même assez savoureux aussi. Voilà, ils ont tous leurs petits trucs et voilà, franchement, il ne manquait plus que cette intrigue mystique autour d'un jeu de rôle à la Donjons et Dragons. Enfin, je sais pas, tout est complètement what the fuck, over the top, et pourtant, je suis accroché et pourtant, je continue à suivre et j'aime toujours autant cette série. C'est quand même assez incroyable, je trouve.
Et ça fonctionne très bien en plus, d'ailleurs.
Ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas que sur nous d'ailleurs. C'est oui, effectivement. Qui aurait dit il y a 2-3 ans quand la série s'est lancée, à part moi évidemment, qui croyait à mort au projet, voilà, qui était le premier à faire sa propagande et à le défendre. Qui aurait dit qu'on en serait déjà à trop confort, déjà qu'on aurait une deuxième puis une troisième saison, c'était quand même pas gagné d'avance, et que oui, ce soit bien reçu et que même niveau public et critique, ça a l'air de plutôt trouver des personnes qui apprécient, quoi. Ça a trouvé ses marques, et c'est cool.
C'est cool. Après, l'inconnu quand même qui reste, c'est Berlanti, qui est toujours aux commandes, et on sent que l'inspiration, ça lui manque un peu, puisque le déroulé de la saison est très très similaire à ce qui se passe dans Arrow en ce moment, donc.
Oui, bah, tu parles de Berlanti, effectivement, tu as raison, parce que là, on arrive dans la saison 3, et la saison 3, c'est souvent un tournant dans les séries de Berlanti. Il y a une rupture dans Arrow aussi, à cette saison 3. Flash a eu aussi un passage assez délicat en fin de saison 3, et à gérer ce qui se passe après la saison 3. Donc effectivement, cette saison-là de Riverdale pourrait voilà, apporter les premiers couacs dans la machine. C'est pas faux.
Croisons les doigts.
Mais oui, croisons les doigts, plutôt de toute façon, on continuera d'aimer, j'en suis sûr. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, rassurez-vous, Archie est toujours aussi peu vêtu, voire même encore plus dévêtu que dans les autres saisons. C'est quand même assez incroyable, ça aussi.
C'est un adolescent, on le rappelle.
Oui, voilà, les travaux pour Papa Andrews, franchement, ça paye. Et c'est sur cette considération, ma foi très profonde, que nous allons enchaîner et passer à une section de chroniques de comics sortis récemment en VO. Il y a un fil rouge hein, quand même, hein. Il y a clairement un fil rouge dans ces deux émissions de novembre, puisque là aussi on va parler d'Archie, mais on va attendre un petit peu. Erwan, toi tu vas nous parler d'un titre que j'ai, contre toute attente, abandonné, furieux, après le premier épisode.
Oui, Super Sons. Et après, je peux comprendre pourquoi t'as abandonné.
Mais je m'y attendais pas. Donc vas-y, dis-moi un petit peu ce qu'il en est après ce premier épisode.
Alors, ça a pas trop avancé parce qu'on est qu'au numéro 3. Il y aura peut-être même un numéro 4. Et tu abandonnes au premier. Alors, dans le premier, ce qui t'a bloqué, toi, c'était, si je me rappelle, les méchants qui apparaissaient, en fait. C'est bien ça.
Et oui, c'est ça.
Parce qu'il faut savoir que dans la première série Super Sons, comment dire, c'était vraiment l'union des deux. Ils se battaient en commun avec Superman, Batman qui les rejoignait de temps en temps. Et dans le Adventures of the Super Sons, on a plus ça. On a des méchants qui apparaissent. Alors, je sais pas si je peux trop en parler. Ça risque de spoiler un petit peu.
Ouais, on va essayer de rester un peu cryptique. On va dire que moi, ce qui m'a dérangé, c'est que héros junior, méchant junior.
Exactement. Mais en fait, ça, c'est assez vite éclipsé. C'est-à-dire que dans le deuxième, l'affrontement, on le retrouve quand même. Mais on sait d'où ils viennent, pourquoi ils font ça. Donc, c'est un peu compris. Et dans l'épisode 3, ça continue. Et ça redevient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a encore un héros qui apparaît à la fin. Et ce héros, il sort de nulle part. Alors, je sais même pas s'il existe à la base. Mais si je dis non, ça va spoiler. Mais il est pas connu en plus. Donc c'est ça le truc. Donc grosso modo, ça reprend Superson. Ça reprend en fait des éléments de DC qui étaient déjà développés. Par rapport à Superman, par rapport à Batman. Puisque de toute façon, c'est le fils de Superman et le fils de Batman. Donc ça reprend ça à leur sauce teenager. C'est toujours sympa à lire, mais c'est vrai que le côté des méchants juvéniles, ça peut un peu bloquer. Mais c'est justifié, et ça a l'air d'aller dans une histoire avec une continuité. Donc à voir à la fin ce qu'ils vont faire, est-ce que ce sera la fin des 12, ou est-ce que ça va arriver plus tôt, ça par contre je sais pas. Mais si ça arrive à la fin des 12, j'espère que l'intrigue va être très bien construite, parce que 12 numéros comme ça, ça risque d'être un peu long je pense.
Ouais. Moi, ce qui m'avait perdu aussi, en dehors de cette apparition hein, de ces méchants, c'est vraiment, je me suis senti paumé par rapport à la première série.
Ça n'a aucun rapport en fait.
J'ai pas reconnu ce que j'avais aimé dans la première série. Même les personnages, il y avait quelque chose qui était changé quoi, au niveau de leur développement, de leur caractérisation. Je saurais pas. Il y avait une espèce de rupture qui m'a paumé d'entrée dès les premières pages de l'épisode. Et puis cette scène avec la statue qu'ils affrontent, là, espèce de statue en or de Superman, si je me rappelle bien.
C'est ça.
Même ça, ça avait déjà commencé à me lâcher, à me faire lâcher le truc. Je sais pas, il y a un truc qui n'allait pas d'entrée. C'était bizarre.
Est-ce que c'est le changement d'artiste qui fait ça au dessin, peut-être?
Bah peut-être, oui peut-être, pourtant, alors si je me rappelle bien, c'est Thomas E. Gleason.
Là c'est Barbery, ah. Thomas E. Barbery.
Oui, donc peut-être le changement d'artiste du coup.
Ouais.
Non, puis même cette scène de combat là qu'on a au début du numéro 1, je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas, je sais pas si c'est que sur moi ou si toi ça te l'a fait aussi, mais l'épisode en entier en fait, je l'ai trouvé... Un peu plat, un peu sans intérêt, et puis ça se termine par ça, quoi. Et j'ai dit non, quoi.
Ouais, je peux comprendre. Mais moi, là-dessus, j'ai vraiment été fan dans la première série, donc j'ai envie de voir jusqu'au bout ça va aller. Tant pis si je perds de l'argent pour rien, hein, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire quand même, parce que c'est deux personnages qui méritent un peu d'avoir des séries, parce qu'ils sont intéressants, je trouve.
Ah oui, clairement.
Après, c'est vrai qu'au niveau méchant, ils sont pas servis, quoi. Là-dessus,
ah, pour le coup, oui,
c'est pas cool.
C'est des personnages qui méritent vraiment d'être mis un peu plus en avant que ce qu'ils le sont jusque-là. Surtout l'un des deux qui a disparu des radars, du coup, à part dans cette série.
Ouais, ça, je sais pas, je suis pas à jour. Mais oui, il paraît.
Donc, du coup, voilà. Et puis, si je veux voir Damian, j'ai Teen Titans.
Teen Titans, qui est excellent d'ailleurs.
Et que j'adore. Et effectivement, j'aime beaucoup cette nouvelle équipe. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire de Damian aussi. Son espèce de double jeu, là, je le trouve hyper intéressant et hyper cohérent avec ses origines à lui. Mm. Et du coup, non, j'aime bien. J'aime bien cette version-là de Teen Titans, cette relance qui a eu lieu il y a quelques mois. Et même celle de Titans, d'accord. D'ailleurs, hein, les deux séries... On subit bénéficier d'un nouveau souffle, et ça c'est cool, ça marche bien de ce côté-là. Bon, tant pis pour Super Sans. Peut-être que je me laisserai tenter par un TP si vraiment, au niveau des avis que je pourrais lire ici ou là, ça remonte et peut-être que je m'aperçois que je rate quelque chose. Je me ferai peut-être violence sur un TP, mais a priori, c'est pas pour moi. Et puis, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. On peut pas tout aimer non plus. Et ce qui n'était pas pour moi non plus, alors c'est dingue parce que tu vas parler de deux séries que j'ai arrêtées. Amazing Spider-Man. Du coup, je l'ai arrêté, moi, au numéro 2, 3, 3, je crois.
3.
Ouais.
Ah bah c'est un bimensuel, donc ça avance encore. Tu avais arrêté avec pourquoi déjà? Parce que...
Bah, je sais même pas en fait. Enfin, je ne sais à la fois je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté, mais aussi je ne sais pas pourquoi je la lisais. Je me suis rendu compte après ces trois épisodes, je me suis dit mais pourquoi tu lis encore ça? Enfin, je l'attendais pas. Et puis bah c'était dans mes listes de précommande. Et puis bah je la recevais. Et puis bah je la lisais, mais sans envie, sans intérêt. J'avais été un peu piqué par la fin du run de Dan Slott, qui avait un peu relancé mon intérêt parce que je voulais voir comment il terminait son truc. Donc je m'étais dit bah je vais aussi aller découvrir ce que fait Spencer. Et puis bah finalement, j'ai pas été ni embarqué ni. Il a manqué ce truc dans son histoire qui m'accroche. Cette espèce de chose qui me disait, ah ouais, c'est nouveau, c'est on est reparti pour un nouveau truc. J'ai pas senti ni d'originalité, ni de choses vraiment accrocheuses. Donc ben, par dépit, j'ai fini.
Est-ce qu'il te montrait pas un Aelydra en fait?
Ah non, non, mais... non, non, même pas. Mais... Encore que ça aurait été drôle. Mais ouais, je sais pas, ça m'a laissé complètement froid et je me suis aperçu que je continuais à prendre Spider-Man plus par automatisme que par vrai intérêt et par vraie envie de lire le truc. Donc je me suis dit, bah je vais attendre un TP et puis je lirai peut-être que ça fonctionne plus en arc complet, je sais pas. Donc je prendrai le TP 1 pour voir. Mais ouais, pas plus en bas les
Pas
couilles.
sûr que ce soit le meilleur, le TP1. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Mais alors moi j'ai pas lu le run juste avant en fait. J'ai profité du fresh start sur Spider-Man pour prendre cette série-là. Donc j'ai pas la comparaison comme toi. Je dois avouer que je préfère la partie avec Ramos. Je viens de me faire des ennemis en disant ça, mais la partie avec Otley, je la trouve un peu trop cartoony. Après c'est son style, mais la partie avec Ramos, je la trouve un peu mieux au niveau des dessins. Et alors le premier TP. Bon, ça développe sa relation avec son colocataire qui s'avère être un super vilain. Donc ça, il le tease dès le FCBD, il me semble. Donc ça, c'est voilà, il développe sa relation. Et là, maintenant, on est parti sur un nouvel arc qui fait revenir une ancienne ligue que je ne spoilerai pas parce que je pense que c'est une grosse partie de l'intrigue et qui impacte en fait tout l'univers, en fait, ouais, vraiment tout l'univers Marvel. Ça impacte Captain America, ça impacte Tony Stark, ça impacte Thor, ça impacte vraiment tout le monde. Donc c'est pas un numéro juste sur Spider-Man, c'est vraiment un truc important. Ce qui m'a un peu dérangé là-dedans, c'est que ça impacte des événements dans des séries qui se passent en ce moment. Donc ça reprend des événements de Captain qui se développent dans Captain, mais du coup ça change les événements. Donc c'est un peu dérangeant. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je
Tu
dis.
veux dire que l'univers Marvel n'est pas vraiment connecté et pas vraiment cohérent en fait?
J'ai cette
Bah
impression-là avec
que... Oui, Anthony, tu voulais dire un truc peut-être?
Bon Dieu.
Voilà, après j'ai peut-être loupé une case quand j'ai lu Captain America, puisque la scène en question est dans une issue que j'ai lue il y a pas longtemps.
Le run actuel de Ta-Nehisi Coates?
Ouais.
Ouais, ok.
Donc ça reprend une de ces scènes-là en la modifiant du coup. Et c'est ça qui me bloque un peu en fait. Après, c'est intéressant sur le concept, donc à voir comment ils vont se dépêtrer de tout ça, puisque du coup, ce qui se passe dedans, c'est vraiment cool. Mais voilà, c'est un peu dérangeant de ce côté-là, qu'il n'y ait pas une continuité par rapport aux autres séries. Ou alors j'ai loupé un truc.
Bah après c'est un enfin on touche là à un des reproches que je fais à Marvel depuis bien longtemps hein, c'est cette espèce d'absence de lien entre ces séries et que bah effectivement on va voir des séries qui vont avoir des événements cataclysmiques qui sont censés normalement dans un vrai univers partagé de manière cohérente etc. impacter plein de séries et être référencé dans plein d'autres séries et au final chacun fait ça de son côté et personne ne tient compte de ce qui se passe chez le voisin et ça, c'est un des vrais problèmes que j'ai avec Marvel, que j'ai plus avec DC depuis le Rebirth.
Bah après, quand tu lis des séries isolées comme ça, comme Spider-Man, si tu lis pas le reste, tu t'en aperçois pas de ça, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si tu lis ce qui est à côté, tu t'en aperçois, et là, ça devient un peu plus embêtant, quoi.
Et là où ça peut aussi devenir embêtant, c'est que je lis cet épisode de Amazing Spider-Man, donc c'était le 8, c'est ça?
C'était le 8.
Donc je lis cet épisode, je me dis, ah purée, ce truc-là, voilà, ça envoie du bois, ça va toucher tout le monde. Je vais aller lire du coup ce qui se passe chez les autres pour voir s'il y a une suite ou quoi. Et bah en fait non.
Ouais. Il faut le
Ça c'est...
savoir qu'après il se passe ça aussi. Pour que tu aies envie de le lire, il faut que tu saches que dans Captain America, tu as cette scène-là, et est-ce que
Ah d'accord, ok. Tu le
faut le
comprends pas, hein,
savoir.
tu le comprends pas si tu lis pas déjà Captain America, ok.
Voilà, moi je l'ai reconnu parce que après toi dans Thor, je sais pas si la scène de Thor, elle est vraiment dans Thor.
Ok.
J'ai pas lu Thor, je sais pas. Mais je suppose qu'elle y est, du coup.
Ok. Bon, en tout cas, toi, qui n'avais pas lu du Spidey depuis un petit moment, ça a l'air plutôt de te plaire.
Moi, ça me plaît bien. Ouais. J'accroche plutôt.
Ok. Et le côté un peu humoristique qu'il pouvait avoir, forcément, on parle de Spencer, on parle de Spidey, on pense à Superior Foes. Est-ce que c'est présent?
Superior Foes, c'est-à-dire.
Bah, c'était une série qu'il avait déjà faite dans le passé avec des ennemis de Spider-Man, dont son colocataire. Il avait déjà travaillé avec ce personnage-là. Et c'était une série qui était appréciée notamment pour son côté très décalé, très humoristique, qui faisait rire tout le monde, bah, sauf moi, visiblement. Est-ce qu'il joue encore cette fibre humoristique dans Spider-Man?
Ouais, il y a des bonnes scènes qui nous font rire nous et qui portent un peu à confusion même Spider-Man dans le numéro 7 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, une scène un peu ubuesque où il invite Spider-Man dans un endroit un peu bizarre et ça l'étonne lui d'être là-dedans et ça nous étonne nous de le voir là-dedans sans qu'on le reconnaisse et sans qu'il fasse quelque chose.
Ok.
C'est dur d'en parler sans spoiler, mais
Ah,
ouais.
c'est super dur. Ok, bon, bah, du coup, peut-être en TP. Je redonnerai peut-être une chance. J'aime quand même le personnage, donc, du coup, ça, voilà, ça m'embête un peu de l'abandonner complètement et de venir. Voilà. Donc, je donnerai une deuxième chance sur DTP, pour voir. Pour voir.
Après, le deuxième truc embêtant, c'est que je vois toujours pas le lien avec Spider-Geddon.
Oh, bah, il n'y en aura pas, je pense, hein. Parce que
D'accord.
Spider-Geddon, si je fais bien le lien avec ma mémoire, c'est Slott qui s'occupe de ce truc-là.
Oui.
Hein, il revient pour faire son Spider-Geddon, sa suite de Spider-Verse.
D'accord.
Donc du coup,
Donc
ouais,
ça aura aucun rapport avec ça.
je suis même pas sûr qu'à un moment ou à un autre, Amazing se raccroche à ça. Hein. C'est un peu ce que fait Snyder avec Metal, quoi.
Pardon, pour coller au Spider-Verse de Sony.
Ah aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a eu un jeu vidéo. Il fallait faire un truc forcément.
Pas le jeu vidéo, le
Non, le
film
film.
animé qui
Ah, le
arrive.
film, pardon.
Into the Spider-Verse.
Oui, qui arrive, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. C'est vrai qu'il y a ça. Ok, bon bah oui. Cinéma, donc comics, normal. Normal. Du côté VO, est-ce que tu as d'autres lectures en ce moment?
Côté VO en ce moment, bah, j'ai toujours mes TP avec Redwood, Teen Titans, donc il y en a beaucoup.
Ouais.
Il y en a beaucoup, beaucoup. Après lesquels en parler
Oui, moi j'ai Archie, évidemment. Mais j'ai Archie un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut connaître de lui, parce que j'ai Archie 1941. C'est une série. Alors je ne sais même plus qui la scénarise. Alors là, je suis bien con, du coup. Je vais vite trouver un single dans ma pile. Heureusement, la pile est à côté de moi. Alors c'est encore un grand nom, hein, évidemment. Ah bah oui, c'est Mark Waid, évidemment. C'est Mark Waid et Brian Augustine. Qui scénarise ça et c'est Peter Krause qui dessine. Alors là pour le coup, alors c'est une des forces d'Archie. Hein. Archie Comics, c'est vraiment fonctionne par espèce d'univers, par style, je saurais pas dire. Il y a une partie. En fait, on va prendre les personnages et on va les mettre dans plusieurs situations, des situations horrifiques comme dans Afterlife with Archie ou Vampironica. Des situations teen avec les séries classiques Archie, Jughead et compagnie. Et puis là, on est parti dans un contexte historique. On va prendre Riverdale, on va le mettre en 1941 et on va le mettre exactement au moment où les États-Unis vont entrer en guerre. Et du coup, forcément, ça va impacter la vie des personnages de Riverdale, puisque avec l'entrée en guerre des États-Unis, eh ben, il va y avoir l'appel des hommes en âge de combattre à rejoindre les forces armées pour s'engager dans ce conflit. Et forcément, ça va bouleverser le quotidien de tout le monde. Archie arrive en plus, lui, pile à l'âge d'être engagé. Et il y a une vraie morosité dans ce titre-là, un vrai côté ouais, vraiment très morose, très oppressant aussi. On sent vraiment l'arrivée de la guerre, son côté angoissant, oppressant qu'il a un peu sur les personnages. Personne ne gère ça de la même manière. On va avoir certains des camarades d'Archie qui vont ne pas réfléchir une seconde et s'engager tout de suite et partir au combat parce qu'ils n'attendaient presque peut-être que ça pour certains, pour donner un sens à leur existence, je ne sais pas. Et puis bah, il y a Archie qui lui n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'engager là-dedans parce qu'il sait que bah, la prochaine fois que ses proches le verront, ce sera peut-être dans une boîte en carton, comme il dit lui-même, et il n'a pas envie de ça. Donc il va suivre l'actualité, il va suivre le déclenchement de cette guerre, et son père qui le pousse, lui, à s'engager, parce que si t'es un homme, et ben tu vas faire la guerre. Et on comprendra aussi qu'il y a d'autres raisons, en lisant l'épisode 2 notamment. Voilà, c'est vraiment un autre style, c'est vraiment un autre ton, c'est morose, c'est oppressant, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper bien écrit, bien caractérisé, c'est un vrai plaisir de voir les personnages que je connais et que j'aime dans cette situation, dans cette époque-là. Même graphiquement, il y a un beau travail qui est fait pour transposer à la fois la ville et ses habitants dans le style des années 40, et même le style de dessin, la façon dont son... représenter certaines scènes, dont sont, j'ai envie de dire, iconiser certaines scènes, on a l'impression de voir un film qui se situerait dans les années 40. Vraiment, c'est graphiquement, c'est une vraie réussite, et aussi dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Donc vraiment, je ne sais pas si ça sortira en VF. Donc si vous avez la chance de pouvoir lire la VO, bah allez jeter un oeil à cette série-là. C'est en 5 épisodes, donc il y aura un seul TP, ça sera auto-contenu. Et ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Bon, après, voilà, je suis peut-être pas objectif quand je parle d'Archie, mais c'est le haut du panier de ce que peut faire en ce moment l'éditeur. Donc jetez un oeil à ça quand vous en aurez l'occasion. Je sais que ça
Donc
chatouille.
on est sur du Archie du coup qui est sérieux du coup t'es en train de dire.
Ah là, ouais. Oui, on rigole pas. Là, il n'y a pas de lipstick
D'accord.
incident ou de quoi que ce soit. Là, c'est la guerre, c'est les années 40. On suit ça à travers le cinéma notamment. Ils vont souvent au cinéma, les personnages, enfin, les jeunes de la bande d'Archie dans ce début de série. Et à cette époque-là, avant les films, il y avait le bulletin d'information. Avec des petits reportages, etc. Et c'est comme ça qu'ils apprennent que la guerre est lancée, c'est comme ça qu'ils voient des images des premiers combats, etc. Et c'est comme ça que se manifeste la guerre et son côté angoissant, principalement. Et non, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Et c'est... Non, c'est bien. Franchement, c'est bien.
D'accord, moi je le prendrai en TP de toute façon, qui sortira au mois de mars, je pense.
Ouais, parce que là, le numéro 3 sort, ou vient de sortir. Je ne sais plus. Et puis après, ouais, il en reste
Le
deux.
dernier c'est février.
Donc oui,
Le dernier sort en février.
le TP arrivera derrière. Encore que je comprends pas trop la politique de TP d'Archie Comics. Donc.
Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour l'émission de novembre. On se retrouve très rapidement, je pense, pour l'émission de décembre, ou les émissions de décembre. Forcément, il devrait être question de faire le bilan de cette année 2018, mais nous aurons également pas mal de nouvelles lectures et peut-être même de nouvelles séries ou de nouveaux films, dont nous aurons envie de vous parler. Rendez-vous donc en décembre, et d'ici là, bonne lecture.